Merci beaucoup. On m'entend bien? Oui, il y en a trois qui ont répondu qu'ils m'entendaient. Est-ce que les autres entendaient? On remonte le son des affaires pour entendre ma voix deux fois. C'est pas bon. Alors, bonjour tout le monde. Il me fait plaisir d'être avec vous ce matin pour partager la parole de Dieu. J'ai entendu dire dans les chants qu'on était en 2015. Êtes-vous là? Vous êtes en 2015, vous autres aussi? Alors, une question pour vous ce matin. Y a-t-il un avenir pour l'Église du 21e siècle? Oui ou non? Vous êtes silencieux, vous n'êtes pas l'air d'être certain? Vous êtes certaine? Est-ce qu'il y a un avenir pour l'Église du 21e siècle? Oui. OK. Vous savez qu'aujourd'hui, l'Église s'interroge sur leur avenir. Beaucoup d'Églises s'interrogent sur leur avenir et leur raison d'être, leur façon d'être. Et j'aimerais vous aviser qu'il y a un avenir pour l'Église du 21e siècle. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens ont des goûts et des besoins différents. Vous savez que les réformateurs ont parlé du sacerdoce universel et Luther a parlé de remettre le ministère dans les mains des laïcs. Mais aujourd'hui, nous sommes au milieu d'une nouvelle réforme. Je ne sais pas si vous vivez vraiment 2015, mais aujourd'hui, tout est à revoir. Dans tous les domaines, dans toutes les sphères de la société. Nous devons apprendre et penser autrement, voir les choses autrement, d'un autre point de vue. Je vais vous expliquer pourquoi et vous montrer, appuyé par les Écritures, qu'on doit avoir un message adapté et une vie aussi qui va avec cela. Écoutez bien. Vous savez que l'Église du 21e siècle vit avec une génération découragée, déprimée, fatiguée, qui se sent coupable. Les gens boivent pour oublier, puis ils veulent changer les idées, ils veulent tout faire pour changer leur situation présente. Ils ne savent pas où est-ce qu'ils s'en vont. Et c'est ça qu'on ne donne pas des statistiques, mais quand on regarde les statistiques du suicide, puis des meurtres, puis vous en voyez, vous autres aussi, vous regardez la télévision, vous êtes en 2015 aussi, vous avez des téléviseurs? Oui, oui, bon, vous regardez ça vous autres aussi. Vous suivez la société, vous voyez comment ça marche aujourd'hui? Ils ont même mis la Maison-Blanche en couleur, s'il vous plaît. Couleur de l'arc-en-ciel, là, s'il vous plaît. C'est pas n'importe quoi. Vous savez, la génération d'aujourd'hui, c'est une génération des enfants de la télé, du iPad, du iPhone, tout ce qui est électronique. Tout est en couleur aujourd'hui, puis ça bouge tout le temps. Vous regardez les annonces à la TV, puis ça bouge tellement vite qu'on a de la misère à y suivre. Imaginez, quand le monde d'aujourd'hui arrive dans une église, qui vit encore dans les années 1980. Les gens arrivent là, puis tout est en noir et blanc. Il y a un trop grand contraste avec la réalité d'aujourd'hui, puis ce qu'ils vivent. Vous savez, oui, tous ceux qui se sont convertis dans les années 60-70 ont de la misère à décrocher de ce temps-là. On n'est plus en l'an 70, là. Puis, pour justifier leur cause, ils disent, « Ah, on est néo-testamentaire. » Ah bon, OK. Alors là, on va reculer dans le temps de Paul. Remettre vos sandales, puis on va repartir avec des grandes robes. On est en 2015, il faut vivre en 2015, puis il faut s'adapter avec 2015. Pour vous, ici, on a quand même évolué. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé à prêcher, je prêchais avec un tableau en arrière. On avait un tableau noir, puis on écrivait dessus. Quand je suis arrivé à Shawinigan, c'était le début des rétroprojecteurs. On s'est équipé d'un rétroprojecteur, on a commencé avec les rétroprojecteurs. Et aujourd'hui, on est avec les PowerPoint. On suit l'évolution à ce niveau-là. Mais lorsque je vous dis que les gens ont des goûts et des besoins différents, ce n'est pas seulement au niveau de notre équipement, mais aussi de notre approche. L'Église est en cours de perfectionnement. Elle est en marche, puis elle va toujours marcher jusqu'au retour du Seigneur. Il faut se rappeler la grande mission de l'Église. L'Église n'est pas là pour elle-même. On n'est pas là pour nous autres, pour faire un petit club social. On est là pour communiquer l'Évangile dans le monde autour de nous. La communication de l'Évangile doit rester la cible première de l'Église. C'est important, très important de comprendre qu'il faut faire attention pour ne pas devenir un club social. Il faut sortir de notre zone de confort et se poser la question, pourquoi les gens n'écoutent-ils pas aujourd'hui? Pourquoi lorsqu'on prêche l'Évangile, lorsqu'on veut témoigner à quelqu'un, les gens ne veulent pas nous écouter? Vous voulez donner un traité à quelqu'un, il va le tirer à terre. Les gens ne veulent pas. Pourquoi? Il faut savoir à qui on parle. C'est qui le personnage qui est en avant de moi? Il faut développer des stratégies. Vous savez qu'il y a deux grandes catégories de croyants. Il y a les créationnistes. Les créationnistes sont ceux et celles qui croient que la parole de Dieu dit la vérité. Pas nécessairement des évangéliques, mais ils croient en un Dieu créateur. Ils ont une morale. Vous faites probablement partie de tout ça. Mais on a aussi les évolutionnistes. Eux sont basés sur l'opinion de l'homme. En général, c'est eux qui décident ce qui est vrai, ce qui est faux. Si la femme doit avorter ou pas, c'est elle qui décide. C'est pas le médecin qui décide. C'est elle qui décide. Le monde va dire, ça c'est mon opinion. Tu as le droit à la tienne, puis c'est l'équivalent. Suis ta religion, va suivre la mienne, laquelle que tu suis. Ne fais pas de tes troubles, mêle toutes tes affaires. Ils vont dire, si quelqu'un qui se mêle de ses affaires, il n'a même pas connaissance de ça. Mais n'oublions pas que nous vivons dans un monde qui a la pensée évolutionniste. Lorsqu'on présente l'Évangile, il faut faire attention au vocabulaire qu'on utilise. Moi, j'écoute beaucoup les gars qui les évangélistes de base, là, comme René Desiel, puis j'aime ça, j'ai parlé avec Robert aussi, puis il y a des gars qui, eux autres, c'est la facilité pour eux autres, là, puis la façon dont ils contactent les gens. C'est intéressant de dire, d'entendre ça. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous présentez l'Évangile à quelqu'un, vous voulez témoigner à quelqu'un, si vous dites, c'est écrit dans la Bible, vous venez de tout perdre. Parce que la Bible, c'est écrit pour les hommes. C'est écrit par des hommes. Alors, les évolutionnistes sont basés sur l'opinion de l'homme. Alors, si la Bible, ça a été écrit par les hommes, c'est un livre qui n'a pas plus de valeur que n'importe quel autre livre. C'est comme ça qu'ils voient ça. La façon de changer, c'est que quand on parle à quelqu'un, on dit « la parole de Dieu dit » ou « Dieu dit dans sa parole ». Ça veut dire la même chose. Mais voyez-vous, juste la façon de présenter, les gens vont réagir d'une façon différente. Les mots pour un ne veulent pas dire la même chose que pour l'autre. Imaginez que vous témoignez à quelqu'un qui a une base évolutionniste. Pour lui, Dieu n'existe pas. Tout vient, il ne sait pas d'où ça vient. Il découvre des nouvelles planètes à tous les jours. Mais vous lui dites, « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. » Jésus, c'est qui ça, Jésus? De quoi tu me parles? Il ne sait pas. Il a une base évolutionniste, il ne connaît pas. Les jeunes, ils savent de quoi qu'on parle. Je ne sais pas s'il y a des jeunes ici, là. Oh, il y en a une couple, là. À l'école, là, ils n'entendent pas l'enseignement d'un Dieu créateur. Ils entendent l'évolution. Tout vient, on ne sait pas d'où ça vient, puis on ne sait pas où ça va aller, puis on ne sait rien. Mais on est en train de découvrir. Là, ils sont rendus tellement loin avec les recherches que d'ici quelques années, ils vont arriver au Big Bang. J'ai entendu ça il n'y a pas longtemps. Bonne chance, ils vont tomber dans un trou à quelque part. Mais nous autres, on a une base créationniste. Alors, quand on dit « tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu », on sait ce que ça veut dire. Le mot « sauvé » pour nous autres, on sait ce que ça veut dire. Le retour du Seigneur, on sait ce que ça veut dire. Mais l'évolutionniste, lui, ne comprend rien. De quoi est-ce que tu parles? Le retour du Seigneur, de quoi tu parles? J'ai jamais entendu parler de ça. C'est ça, cette affaire-là. Pourtant, Dieu a tout créé. Il a même créé celui qui cherche à prouver que Dieu n'existe pas. Dans 1 Corinthiens, les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse, et nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Voyez-vous? Deux réactions différentes. Pour les Juifs, croire que Jésus est crucifié sur une croix romaine, que Jésus était le Messie qui était crucifié sur une croix romaine, c'est un scandale. Mais pour les païens, eux autres, c'était une folie. Eux autres, comme ils diraient, là, as-tu vu le raisonnement? Ils ont pris un homme, ils l'ont déclaré coupable, ils l'ont cloué à la croix, puis ils disent que ça, c'est le Messie, puis il est venu payer la dette de nos péchés. As-tu vu ça? Ça ne tient pas de bout, ton enfant. Voyons donc. C'est mieux d'en prendre une autre sorte, elle est trop forte, celle que tu prends. Là. C'est des raisonnements comme ça qui vont nous apporter. Alors, vous avez remarqué deux réactions différentes. Pourquoi? À cause de leur base. L'un a une base créationniste et l'autre a une base évolutionniste. Est-ce que vous me suivez? Oui? Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans les Actes des Apôtres, s'il vous plaît, au chapitre 2. Et nous allons voir que Pierre et Paul ont eu une approche différente et une attitude adaptée. On va remarquer comment Pierre a approché les gens de son époque. Au chapitre 2, verset 22. Le jour de la Pentecôte, Paul parle à des Juifs. Les Juifs, ils ont une base créationniste ou évolutionniste? Créationniste. Ils croient au Dieu créateur. Alors, Pierre va leur présenter les Écritures. Il dit au chapitre 2, verset 22, « Hommes frères, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme que Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, comment ils savent ça? Par les Écritures. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies, et Dieu l'a ressuscité. » Au verset 29, il répète encore, « Homme, frère! » Il parle à des Juifs, à des créationnistes. Puis là, verset 31-32, il leur parle de la résurrection. Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes témoins. Là, ils commencent à être ébranlés un petit peu, eux autres. Là. Verset 36, « Que toute la maison d'Israël sache, donc avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. » Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, mais que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on va faire? On a crucifié notre Messie. Qu'est-ce qu'on va faire? » Pierre dit, « Repentez-vous. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. » Au verset 41, on voit que ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3 000. Ça va être toute une campagne d'évangélisation, ça. Hein? 3 000 qui se convertissent. Mais c'est vrai qu'il y avait du monde un peu partout. Hein? Jusqu'il y en avait même de Rome, puis il y en avait de différentes, probablement de 17 à 18 pays différents. Mais qu'est-ce qui a provoqué cette réaction-là? C'est que les autres, ils croyaient à un Dieu créateur. Ils croyaient à la nature pécheresse, c'est pourquoi qu'ils faisaient des bonnes œuvres. Et quand Pierre a mentionné qu'ils avaient crucifié le Messie, ils ont dit, « Hey, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? » Bien, repentez-vous, puis croyez en lui. Alors, Pierre était basé sur la parole. Il parlait à des personnes créationnistes. Ces Juifs avaient le même fondement que Pierre. C'est pour ça qu'il y avait une facilité de leur présenter le message. Ils croyaient à l'origine que tout vient de Dieu. Leur problème, c'est qu'ils ne croyaient pas à la solution. Et lorsque Pierre leur a expliqué la crucifixion, ils ont réalisé qu'il avait crucifié le Messie, puis là, ben, le fondement, puis on connaît le restant qu'on vient de lire. Il y a eu plusieurs conversions. Maintenant, on va regarder l'apôtre Paul dans Actes 16. L'apôtre Paul, comment il a approché les villes avec une attitude adaptée à l'identité de chacun. On voit que Paul a travaillé sur les deux tableaux, créationniste et évolutionniste. Vous savez, dans Acte 16, on retrouve Paul dans la ville de Philippe, une garnison romaine. Il cherche une porte d'entrée pour sa première mission en Europe. Il marche dans la ville pendant 3 jours. Et tout à coup, il arrive près d'une rivière. Et là, il y a une dame qui est... Son nom s'appelle Lydie. Une femme craignant Dieu, elle écoutait. Verset 14 nous dit que le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Alors, c'est quoi la stratégie? Excusez. C'est quoi la stratégie de Paul ici? C'est basé sur un groupe de prière. Paul est basé sur un groupe de prière pour fonder une église. Et pourquoi il va pas à la synagogue? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Pourquoi Paul n'est pas allé à la synagogue? La réponse est simple, c'est qu'il n'y en avait pas. Il n'avait pas de synagogue. Mais qu'est-ce qui l'a conduit à la rivière? C'est que les Juifs, quand ils faisaient la révolution pour leur rituel, étant donné qu'il n'y avait pas de synagogue, ben, ils s'en allaient au Rhône rivière, puisqu'il y avait de l'eau pour pouvoir faire le rituel. Et Paul s'est dit, il y a probablement au Rhône rivière un petit groupe de Juifs qui sont en train de prier. Puis il s'est promené dans la ville, puis il a trouvé une rivière, puis il a vu quelques femmes qui étaient là. Les Juifs, ça prenait 10 familles juives pour former une synagogue. Et là, on voit qu'il n'y avait pas beaucoup, puisque c'est les femmes qui étaient réunies. Il n'y avait pas beaucoup d'hommes à ce niveau-là. Alors oui, Paul s'est en allé là, il s'est adapté à la situation pour annoncer l'Évangile là. Et quand on lit le texte, on voit toute la différence. Dans Acte 17, on voit que Paul là, arrive à Thessalonique. Et là, les Juifs ont une synagogue. Alors Paul entre, comme sa coutume, puis pendant trois fins de semaine, trois sabbats, il discute avec eux, d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Voyez-vous, à Thessalonique, comme il trouve une synagogue des Juifs, il parle d'après les Écritures, parce que ce sont des créationnistes. À Athènes, par contre, si on va plus loin, à Athènes, là, il commence à parler avec les gens, au verset 16, comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Verset 18, il y avait quelques philosophes épicuriens, stoïciens, ils se mirent à parler avec lui, et les uns disaient, « Que veut dire ce discoureur? C'est un ramasseur de graines. Hein? Qu'est-ce qu'il fait là avec cette nouvelle? » D'autres l'entendent annoncer Jésus à la résurrection. Ah, on va t'entendre un petit peu plus tard. Va te promener un petit peu avec tes nouvelles idées. On n'est pas d'accord avec ça. Mais Paul observe. Ce qui est intéressant, c'est un des passages, les clés qu'on pourra voir là. Comment Paul use de stratégie pour pouvoir annoncer l'Évangile à ce groupe-là. Probablement que la majorité de nous autres, on est arrivé là-dedans. Là. Mais lui, il est là, puis il observe. Puis là, à un moment, il se rend compte, hop, il y a un Dieu pour le soleil, il y a un Dieu pour la fertilité, il y a un Dieu pour les semences, il y a un Dieu pour la récolte. Il y en avait plein de dieux. Tout à coup, il en voit un, c'est marqué « inconnu ». Hop. En cas des fois qu'il se présente un autre besoin, ben on mettra celui-là. C'est comme ça que ça fonctionnait. Il y avait les épicuriens qui vivaient pour le plaisir. On commence à rencontrer ça aujourd'hui. Il y a des annonces qui se font aujourd'hui, puis ils parlent justement des épicuriens. Les stoïciens, eux autres, bien, tout, ils spiritualisaient tout ce qui entoure, puis il n'y avait rien de nouveau. Là, tout est spirituel. Les forces qui viennent sans l'appeler Dieu, les forces suprêmes, il y en a dans les roches, il y en a dans les arbres, il y en a partout. Il y en a en toi. On est tous. Mais les gens d'Athènes pensaient que les choses évoluaient. Ils avaient la pensée évolutionniste, parce que les Grecs avaient la pensée évolutionniste. Alors Paul, il regarde. Et il dit au verset 23, en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans un temple de main d'homme. Avez-vous remarqué qu'il ne cite pas les Écritures? Il les ramène à la création. Paul a observé et s'est rendu compte que ce monde-là était base évolutionniste, ne croit pas en un Dieu créateur. Alors, il les ramène à la création. Je vais lire le verset 24, c'est important. Le Dieu, il commence par leur expliquer la création et le Créateur. Il est en train de définir, lui, de quel Dieu il parle. Les gens, là, ils vont l'écouter, ils vont dire, « Ah, ah, toi, tu crois à ça, toi. » Il y a peut-être eu une discussion qui ne nous est pas mentionnée ici. Mais il continue, verset 26, « Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sein, habitent sur toute la surface de la terre. » De qui est-ce qu'il parle? De qui est-ce qu'il parle? Relisez le verset. « Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul... » Adam, évidemment. « Tous les hommes sortis d'un seul sein. » Alors, il commence par les ramener. Garde, Dieu n'habite pas dans un temple de main d'homme, le Dieu créateur, mais on est tous sortis d'un, nous autres. Il les emmène à la création et il les emmène à la nature du péché, tranquillement, il va très délicatement. Paul est en train de leur expliquer d'où venons et c'est quoi notre origine. Là, il est en train de parler à des gens idolâtres, des évolutionnistes. Et il essaie de les ramener à la création. Regardez verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Et là, verset 32, lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, les autres dirent, nous t'entendrons-tu une autre fois? Ainsi, Paul se retira au milieu d'eux, et quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Trois réactions différentes. C'est intéressant de voir les réactions. Les uns se moquèrent, les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Mais il y en a quelques-uns qui ont cru. Pas la même campagne d'évangélisation que Pierre. Pas mal différent. Très différent. Réalisez-vous la différence entre les Juifs et les Grecs? On va changer de ville, on va aller au chapitre 19. Au chapitre 19, encore là, c'est encore Paul, il va aller à la synagogue, comme à l'habitude, puis il prêche aux Juifs à partir des Écritures. Verset 8. Chapitre 19, on va lire à partir du verset 8. « Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. » C'est intéressant là, ce qui s'en vient ensuite. Là. « Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. » Lui, il utilisait les Écritures, il est dans une synagogue. Alors, il s'attend qu'il parle à des créationnistes. Verset 9. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans une école d'un nommé Tyrannus. Change de stratégie complètement. Après 3 mois, en train de leur parler, ils n'écoutent pas. Vous savez, à un moment donné, là, ils ne veulent plus entendre. Bien, t'arrêtes ça. Tu revires d'abord, puis tu vas ailleurs. Moi, après ça, on tourne la page, on passe à autre chose. Il y en a d'autres qui vont entendre l'Évangile plus loin, puis Paul, c'est ce qu'il va faire. Il va. Seigneur, c'est ça, comme ça que Paul a compris le message. Ça fait 3 mois que tu es ici, ils ne veulent plus entendre. Regarde, on s'en va dans une école, puis là, toute l'Asie mineure vont venir entendre l'Évangile. C'est à partir de là qu'il y a eu le Colosse, puis l'Odyssée, puis toutes les autres villes autour, là. Ils venaient à Éphèse et entendre l'Évangile. Ils sont venus entendre l'Évangile là. Sa stratégie a changé. Ses objectifs. On va regarder ses objectifs vitement. Gagner des individus à l'Évangile. Alors, il change de stratégie pour emmener le monde à l'Évangile, pour pouvoir les enseigner ensuite. Établir des églises dans chaque ville. Et garder les principes et adapter les méthodes. Parce qu'il n'y a pas de modèle unique. Vous venez de voir, depuis le début, on vient de regarder plusieurs places, puis il y a toujours différent d'une place à l'autre. Vous savez, Dieu était... Il n'y avait pas de difficulté avec les chameaux d'Abraham, puis il n'y en a pas plus avec l'Internet qu'on utilise aujourd'hui. Hein? Dieu ne change pas. Même si la situation change, ça ne le fatigue pas. Et il n'y a pas de difficulté non plus avec la forme que prennent les églises du 21e siècle. Moi, quand je me suis converti, c'était juste du piano, puis il y avait bien des places à la capella. Aujourd'hui, on s'est adapté. C'est ça, l'adaptation de l'Église du 21e siècle. Est-ce qu'on peut évangéliser de la même façon qu'auparavant? Suivre les mêmes principes que Paul dans les Actes. Est-ce qu'on peut faire ça aujourd'hui, en 2015? C'est non. On ne peut pas faire comme lui. Parce qu'on est en 2015. Qu'est-ce qui a changé? C'est parce qu'on n'est pas dans la même époque. On n'est pas dans le même temps. On va juste regarder ici au Québec. Il y en a que ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 5, 40 ans qui sont sauvés ici. Là. Marquez, là, 50 ans. Moi, quand je me suis converti, c'était encore populaire. Vous vous souvenez des campagnes de Billy Graham? Moi, je me souviens, quand je me suis converti, je partais avec Guy Dupont, là, puis on s'en allait dans un terrain de camping avec M. Lacombe pour passer des films de Billy Graham. Hein, Guy? On a eu du bon temps dans ce temps-là. C'est intéressant. Mais à un moment donné, ça a arrêté. Oh, je viens de perdre de quoi, puis il ne faut pas qu'il parte. À un moment donné, le monde a évolué, le monde a changé, puis on a changé de stratégie. Vous vous souvenez d'Alain Choyquier? Il y a plusieurs qui se souviennent d'Alain Choyquier. Il y en a qui ont accepté le Seigneur lors des campagnes d'Alain Choyquier. En 1990, profil spirituel, Michel. Michel m'appelle, il dit, viens nous voir, il dit, on ne fournit pas. On va les rejoindre, on arrive là, puis il y avait à peu près 20 personnes qui attendaient pour aller taper sur le clavier. On est en 1990. Ces moyens ne sont plus efficaces aujourd'hui. Pas parce qu'ils ne sont pas bons, parce que les temps ont changé. Le monde a changé. La technologie a changé. Aujourd'hui, si vous voulez amener du monde, il faut faire une soirée musicale. Les camps sont encore populaires parce qu'ils ont modernisé, ils ont changé, ils ont mis des 17 d'eau, toutes sortes d'affaires. S'il n'y avait pas ça, ça ne marcherait pas. On cherche des nouvelles idées. Devenir de l'espoir, ça a été bon. C'est moins efficace un petit peu. Ce qui est très populaire ces temps-ci, c'est les familles chrétiennes. On va en parler, ça ne sera pas bien, bien long. Mais nous sommes en 2015. Je vous pose une question. Lorsqu'on parle à la génération des 10, de 10 ans à 50 ans, là, est-ce qu'on parle à une génération créationniste ou évolutionniste? Évolutionniste. Pourquoi qu'on n'a pas de succès? Parce qu'on utilise la méthode créationniste. Comme si tout le monde acceptait le Dieu créateur, comme si tout le monde savait de quoi l'on parle. Le monde, ils ne savent pas de quoi on parle. C'est pour ça que nous autres, il faut trouver des stratégies pour aller les rejoindre. La génération des 60 ans et plus, je mettrai peut-être même 70 bientôt, est comparable à la pensée juive, une base créationniste, jusqu'à la révolution des années 70. Mais actuellement, nous sommes dans un monde avec la pensée grecque, la pensée évolutionniste. Dans les écoles, qu'est-ce qu'on enseigne? L'évolution. On rejette Dieu, on ne croit pas à la création, on ne croit pas au Créateur. On dit que la Terre, ça a des millions d'années, puis ça n'a pas d'allure. Vous autres, avec 6 000 ans, il y a bien trop d'écart, ça ne marche pas, votre affaire. La fondation du christianisme se trouve dans la Genèse, puis c'est là que l'homme a rejeté Dieu. Et c'est là, il faut les ramener à ce moment-là, à cette situation-là. Moi, quand j'étais jeune, on avait une base créationniste, on était comme les Juifs, mais aujourd'hui, c'est une base évolutionniste. Tout est relatif aujourd'hui. Tout est relatif. Alors, vous comprenez pourquoi il faut changer notre approche avec les gens? Ça dépend à qui l'on parle. L'Église du 21e siècle, on vit à cette ère-là, et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est des sites Internet sans fin, Top Chrétien, Dieu TV, Enseigne-moi, vous avez de l'enseignement le temps que vous voulez là-dessus. Même chaque église, presque toutes les églises aujourd'hui ont un site Internet. Et nous devons revoir notre stratégie et nous poser les bonnes questions. Et là, j'en pose une première question, qu'il n'y en a pas beaucoup qui s'arrêtent là-dessus pour se poser cette question-là. Et ceux qui se sont vraiment arrêtés, là, ils ont complètement changé leur situation. Et moi, quand je rencontre des gens, vous savez, avec Réseau, nous autres, on a appris bien des affaires. Puis quand je rencontre des gens qui nous disent, « Bien là, nous autres, on voudrait, ouais, OK, vous êtes où? » Bien là, ça fait 30 ans qu'on fait ça comme ça. OK. Bien là, vous êtes comme dans un carrefour giratoire. Puis là, ça tourne. Puis vous tournez assez vite que vous pensez que vous avancez. Mais il faut prendre une sortie. Et c'est là, en discutant ensemble, qu'on s'amène à se prendre des sorties. Puis une des premières questions, c'est celle-ci. Quelle sera la mentalité des gens de votre ville dans 5 ans? Pensez-y comme il faut. Quelle sera la mentalité des gens dans 5 ans? Alors, aujourd'hui, il faut se préparer pour dans 5 ans. Pas dans 1 an, 3 ans, 5 ans. Il faut voir à l'avance. Il faut être un peu visionnaire. Actuellement, quelles sont nos méthodes pour rejoindre les gens? Quelle est notre sphère d'influence, notre accueil, le contenu de nos réunions? Pensez-y comme il faut. C'est ces questions-là qu'il faut se poser pour s'adapter à 2015. On a 3 points importants. 3 points importants afin de nous adapter au 21e siècle. J'en sors juste 3, il pourrait en avoir plus que ça. Améliorer notre approche pour leur annoncer l'Évangile. On va demander à Robert, Robert Vincent, il va venir, il va nous expliquer un petit peu ce qui se passe. Deuxième point, améliorer notre accueil lorsque les gens viennent nous visiter. Vous pouvez venir, Robert, s'il vous plaît. Troisièmement, même être prêt à améliorer le déroulement de nos réunions afin de répondre aux besoins des gens de notre génération. Êtes-vous prêt? Si vous n'êtes pas prêt, vous allez tourner en rond dans le carrefour giratoire. Il faut absolument en arriver là. À moins que votre vision, c'est de créer un club social. Mais si vous reconnaissez vraiment le message, la grâce de Dieu qui nous demande de faire connaître l'Évangile, c'est pas juste prêcher l'Évangile puis distribuer des traités. C'est la vivre aussi. Et le problème de bien des chrétiens, c'est ça qu'ils ne vivent pas ça. Rappelons-nous la mission de l'Église. Communiquer l'Évangile à tout le monde. Juste avant que Robert vienne, je prends une minute juste pour vous expliquer. J'ai mis le petit bracelet ici. Vous connaissez ça, le petit bracelet-là? Il y en a plusieurs qui le connaissent. Moi, c'est la première fois que je le porte. Là. Je voulais vous le montrer. Mais René Desiel, lui, il a ça dans tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pense qu'il couche avec. Puis il conduit les autobus à la ville. Imaginez-vous, il conduit les autobus. Le monde rentre, puis il sort, puis il rentre, puis il sort. Puis à un moment donné, c'est quoi ça, cette affaire-là? Ah, bien là, je n'ai pas le temps de t'en parler, mais si tu veux, on peut aller prendre un café demain. Ouais. Si vous saviez le nombre de contacts qui se donnent avec ça. Juste ça. Je vais juste présenter le bracelet. Il est juste là. Le message est tout là. Tu peux venir, Robert? Robert va nous expliquer quelque chose que lui-même a vécu. T'aurais pris un micro, toi? À moins que tu t'as. Approche-toi. Oui. S'il parle ici, ouais, vas-y. Ouais.
Je reste là, non? C'est beau, OK?
Ouais, tu peux parler comme ça. Vas-y.
Mais moi, ce que j'ai constaté, là, quand Jean est arrivé, entre autres avec les billets de 50 piastres, là, je me demandais au tout départ. C'est pas comment traiter. Je dis pas que je suis sceptique, mais je dis comment utiliser ce moyen-là. Il y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont pas d'accord. Tu parles à des chrétiens, mais même dans d'autres moyens d'évangélisation, il y en a comme des villes de l'espoir, il y en a qui l'étaient, il y en a qui l'étaient moins. C'est dur de faire l'unanimité. Mais avec ça, j'ai trouvé ça intéressant, c'est qu'à un moment donné, j'ai pris l'habitude de les mettre dans mes poches, puis j'ai des poches faites spécialement pour des 50 piastres. Bon, certains, je peux paraître peut-être prétentieux, ils se promènent avec son argent, puis tout, Tu sais, il m'a vu montrer qu'il y a de l'argent. Mais ça, ça a suscité des intérêts parce que, entre autres, j'ai été chez Canac Marquis. Puis j'avais un 50, mais c'était pas dans le but de le donner. Je pensais pas à le mettre là, mais c'était pour acheter de quoi. À un moment donné, je rencontre un compagnon de travail. Ça fait un ex-compagnon de travail. On il me regarde, hey, comment ça va? Puis la retraite, comment ça va? Puis là, il regarde ça. Il dit, on voit jouer que ça. Il me regarde, il fait signe d'un pas. Je dis, ouais, ça va bien, mon affaire, dans la retraite. Ça roule. Ah, ça va très bien. Là, dans le matin, je me dis, il faut que j'y donne. Mais je n'ai pas donné de suite. Puis on avait une bonne interaction. Même au travail, je sais que je suis chrétien, mais lui, il est d'un Curcio. Mais, puis chrétien, l'évangélique a de la misère un peu avec ça, mais c'est un gars bien sympathique. On avait du plaisir ensemble pour jaser. Fait que là, on était content de se voir. On s'est même serré, tout ça. Fait que là, 10 minutes à Canac Marquis, on jase comme si on était chez nous. Et à un moment donné, avant de partir, je dis, Luc, tiens, 50 piastres, là, que je te le donne. Puis il dit, en tout cas, tu me connais, parce qu'il savait ce que je voulais dire, parce qu'il savait que j'étais chrétien, tu me connais, on voulait dire, mais tu connais mes pensées, tout ça. Il dit, hop, tu liras ça, puis ça peut changer bien les choses, tout ça. Puis il l'a pris, il est parti avec. Fait que j'étais bien content. Puis l'autre fois aussi, encore chez Canac, je vois ça souvent, pour régler de quoi. Là, j'étais à terre, je cherchais de quoi, puis d'un étagère, puis un moment donné, qui arrive en arrière de moi, puis me fait un massage. Puis là, j'entends sa voix, et tu me reconnais-tu? Après, il dit, c'est Yvon, c'est un ex-compagnon de travail. Puis j'avais une bonne interaction avec lui, puis c'est un gars assez bourru, puis un genre de... Il y a des personnes qui sont plus, tu sais, tu regardes, puis pas sympathiques, mais il était vraiment... On avait quand même des bons liens, puis j'avais à cœur ce gars-là, puis j'ai parlé beaucoup du Seigneur. Puis là, j'ose avec tout ça, puis à un moment donné, lui, il ne me l'a pas demandé, mais après, il dit, Yvon, tiens, j'aurais à cœur de te donner ça. Ah, il dit, c'est, moi aussi, j'ai je suis peut-être comme toi, mais ça, on avait déjà discuté de ça, puis je voulais pas en parler. Je dis, regarde, Yvon, tu n'as qu'à aller râler, puis tu feras ce que tu voudras avec. Il l'a pris. La troisième affaire, j'ai été chercher un permis pour d'arrosage pour mon terrain à l'hôtel de ville. J'avais encore 250 pièces là. Là, je parle avec la madame, puis là, il manquait de l'argent. Ah. J'avais pas emmené mon argent, ça avait 20 pièces, puis j'avais 10 pièces. Ah, je me retournais. Elle dit, oh, mais je ne sais pas si vous savez, vous avez de l'argent ici. Ah, elle dit, oui, oui, mais c'est pas n'importe quel argent, ça. Elle dit, ah, ouais. Puis là, je mets sa table. Là, elle prend, elle le repousse. Mais elle n'était pas rébabassée, mais j'avais pas dit de. Parce que je pense que j'avais pas dit de prendre les, mais je monte là, mais je pense qu'elle l'aurait pris, elle me leur donne. Mais là, je pars chez nous chercher mon 10 piastres, je reviens. Le matin, je me dis, il faut que je donne ce 10 piastres, parce que c'est bien sympathique, la madame. Fait que là, je signe le papier, puis les arrosages, ça. Elle m'a donné, puis je dis, madame, 50 piastres, je vous le donne. Ah, ouais. Ah, oui, il était vous, puis vous le lirez, puis c'est vraiment adial. C'est donc bien drôle, ça. Puis elle l'a pris. Fait que ça, là, je me suis aperçu que, oups, ça attire l'attention. Hier, on a déménagé notre fille. Il y avait plus des chrétiens, mais il y avait une jeune femme qui n'était pas chrétienne. Fait que puis je la connais pas. Puis on sort des affaires. À un moment donné, t'es bien sympathique, t'es pas gêné. Puis j'avais un solo, mais elle dit, hey, un beau 50 piastres. Oui. Ah, puis là, je savais pas à ce moment-là si c'était chrétien ou pas. Mais j'étais pas sûr. Fait que, ouais, mais quand même. Qui était avec moi? En tout cas, j'ai dit, prends-les. Elle le prend, elle le regarde, c'est cute. C'est là, elle me l'a donné. Après, on était au restaurant à la fin du déménagement, puis là, on en reparlait encore sur le même sujet, puis là, on voulait leur regarder le livre, et qu'elle dit, tiens, prends. Là, elle a lu sur la table, après, elle m'a l'ordonné, pas de problème. Fait que ça suscite bien des intérêts, puis je me suis aperçu que c'est un moyen d'attirer l'attention. C'est beau, puis en plus, c'est pas écrit en gros, c'est trop, là, c'est pas c'était pensé. Quand c'est en gros, c'est peut-être rébarbatif, mais c'est petit, la personne n'a pas le temps de le lire là, elle va arriver chez eux, puis avoir regardé ça, après une fois, bon, elle se doute un peu c'est quoi, là, mais. Puis après, elle la regarde, puis elle lit. Puis je trouve ça, c'est une bonne grosseur. C'est pas trop... Fait que...
Merci beaucoup, Robert. Tu sais, ça fait différent d'un traité ordinaire. Moi, j'en ai toujours dans mes poches. Quand je paye, je l'ai toujours comme ça. Et puis, tout dépendant de la situation, il faut être délicat, mais quand il y a une possibilité, tiens, un petit tip supplémentaire ce matin. Je leur donne ça. Ah ouais, un tip, c'est quoi ça? Je regarderai ça. Puis... Normalement, quand on donne des traités, souvent les gens vont les jeter. Mais le 50 piastres, ils ne le jettent pas. Ils prennent ça. On termine avec... pour les fermiers chrétiens, Stéphane était supposé prendre son tour le matin, mais il n'est pas là. Il m'a dit juste de faire... vous avez ça d'ailleurs à l'arrière de votre dépliant. C'est intéressant qu'il y ait plus de jeunes qui s'intéressent à ça. Fermé chrétien à l'Expo de Trois-Rivières. On a Pax Saint-Maurice, Shawinigan, il va avoir une grosse activité. Je n'ai pas les dates, là, mais on peut les avoir. Trois-Rivières en blues, Festival Western Saint-Tite, ça prend beaucoup de monde, puis il paraîtra-t-il que c'est des milliers de personnes à qui ont l'opportunité de témoigner. Peut-être que vous ne vous sentez pas à l'aise d'aller dans ces endroits-là. Moi, j'y vais pas. Pas parce que je me sens un peu à l'aise, c'est que j'ai plus les capacités pour aller dans ces endroits-là. Je me dirige vers autre chose. Mais vous priez, vous pouvez prier pour ça. Vous pouvez donner. Vous pouvez vous impliquer aussi. Mais s'il vous plaît, pas de culpabilité. Vous savez, il y a des gens, des fois, ils disent, « Ah ben moi, je ne suis pas capable, puis ils se sentent coupables. » Non, non, non. Si le Seigneur ne t'appelle pas ça, fais-le pas. Moi, quand je me suis converti, là, tout de suite, le monde a mis le grappin sur moi pour m'envoyer à l'école du dimanche, pour m'envoyer d'un camp. Je suis allé deux fois. J'ai compris tout de suite que ce n'était pas ma place. Arrêtez ça. Ma force, moi, c'est dans la formation. Fait que l'enseignement et la formation. Fait que je me suis dirigé vers ça. C'est comme ça que le Seigneur m'a montré. Mais il ne faut pas se culpabiliser. Si un autre est à l'aise de le faire, prie pour lui puis aide-le si tu peux. Mais il ne faut pas se culpabiliser. Mais utiliser des méthodes adaptées. Alors, on va terminer en priant, s'il vous plaît. Père, on veut te remercier pour ta parole qui nous montre très clairement que Paul, surtout, avait des méthodes adaptées selon les villes où il était, le monde qui était devant lui. Et c'est la même chose pour nous autres, Seigneur. En 2015, ici au Québec, on vit avec une société qui est fatiguée, qui est déprimée, une société qui ne te croit, ils ne croient pas en toi dans cette base. Ils savent que tu existes, mais ils ont de la misère à cause de leur arrière-plan. On implore ta grâce, Seigneur, sur nous, afin qu'on puisse avoir les bonnes paroles, utiliser les bonnes méthodes. Puis on te prie aussi pour l'avenir de l'Assemblée, que tu diriges bien et que tu fasses, Seigneur, que nous marchions tous dans la même direction. C'est une grâce qu'on te demande au nom de Seigneur Jésus. Amen.